Aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui observe et pratique le marketing digital depuis plus de 15 ans, peut-être même un peu plus. Bref, il a construit en tout cas une audience dans la durée avec son blog qui s'appelle Conseil Marketing. Cet homme-là travaille aujourd'hui sur des sujets produits et expériences clients chez Eloquent. Et surtout, surtout, il a vu passer toutes les grandes transformations, le SEO, les réseaux sociaux, le growth hacking et maintenant l'intelligence artificielle. Alors, ce qui m'intéresse avec Frédéric Canevet, c'est qu'il ne parle pas de tendance. Il parle de ce que ça change vraiment, ce que toutes ces technologies changent vraiment dans la façon de travailler. Et on va essayer de comprendre ensemble avec une question simple, parce que le growth hacking, c'est son dada. Qu'est-ce que devient le gros hacking à l'ère de l'IA? Ça sera le thème. Votre épisode commence tout maintenant avec le jingle. Connected Mate. Salut Fred, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir à bord.
Ça me fait plaisir d'échanger avec toi puisque on se rencontre virtuellement souvent, physiquement aussi comme à Intelligence Marketing Day et aux autres événements. Et j'ai toujours plaisir de discuter avec toi parce que toi aussi tu es à la pointe de la technologie et j'ai adoré ton bouquin et là je suis tes aventures de nouveau chef de produit ou entrepreneur part-time entrepreneur avec l'application que tu sors là actuellement et je trouve que c'est un excellent exemple de ce que l'on peut faire.
Tu vois, bon, alors c'était l'objectif, c'était pas faire la promo de l'app, mais je pense que tu vas nous la mettre sur le gaz et sur le faux Notetaker AI, celle que je fais effectivement avec Alex. Hein, c'est un travail à quatre mains et deux cerveaux. Allez, on attaque. Gros hacking à l'ère de l'IA. Je sais que le gros hacking, c'est un sujet qui te plaît depuis des années. Tu as écrit plusieurs bouquins là-dessus. D'ailleurs, on parlera peut-être de ton prochain ouvrage parce que je crois que tu as un ouvrage sur le feu. On prend un peu de recul. Quand tu regardes aujourd'hui ton métier par rapport à il y a 5 ou 10 ans, c'est quoi le changement le plus marquant que tu aies pu observer?
Alors en fait, c'est vraiment simple pour moi. Et il y a quelques années de ça, revenons à 2 ans, 3 ans en arrière, la connaissance était véritablement quelque chose que l'on mettait en avant. La connaissance, tu peux l'avoir, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec le SEO, la capacité à rédiger des articles de qualité, etc. La connaissance pour faire du copywriting, la connaissance pour faire de l'A/B testing, rédiger dans le landing page, des connaissances pour créer un site internet, des connaissances pour faire du développement. Tout cela, en fait, ces connaissances étaient quelque chose d'assez exclusif. Et ben, forcément, tu avais des gros hackers qui étaient assez techniques et tu avais une barrière à l'entrée pour passer d'un niveau à l'autre. Et ça, c'était vraiment quelque chose que j'en marquais. Et là, l'intelligence artificielle a détruit cette barrière de la connaissance et désormais, n'importe qui peut faire du gros hacking. Et ça, je trouve que c'est vraiment ce qui a changé. Et je le vois. Moi, je vois des gens qui font un petit peu comme toi avec ton fils, qui créent une application en quelques jours, quelques heures, et ils arrivent à avoir quelque chose qui est vraiment sympa. Alors, à chaque fois, bien entendu, et je le dis toujours, quand tu veux coder quelque chose avec l'IA, tu arrives à avoir 80% des résultats extrêmement facilement. Ce qui est dur à trouver, c'est ces 20% qui restent et qui vont faire que ton application va être
le last mile. Le last mile.
Etc. Et c'est là qu'il faut ces connaissances techniques.
Le dernier kilomètre, c'est toujours pareil. Ouais, donc, par rapport à ça, tu nous as parlé effectivement de la connaissance qui était un peu chahutée parce que forcément, la connaissance, elle est devenue un peu partout. Quoi. On en a tous. Mais si on revient sur les compétences, est-ce que tu as l'impression que certaines compétences qui étaient clés avant, en fait, le sont beaucoup moins aujourd'hui. Et si oui, quelles sont les compétences qui le sont moins aujourd'hui?
Alors, tout ce qui est compétences écrites, copywriting, rédaction, etc., ces compétences-là ont, je dirais pas disparu, mais presque. Tu vois que moi, il y a différents niveaux d'IA. Je dirais ChatGPT, je trouve que c'est pas très bon pour la partie rédaction. Mais par contre, tu vois, tout ce qui est Grok, tout ce qui est Gemini, Claude, bien paramétré, arrive à faire du contenu. Et des fois, je me dis, et moi, tu l'as dit, je blogue sur Conseil Marketing depuis 2006. Sincèrement, ça m'a un peu dégoûté, quoi. Des fois, je me dis, mais waouh, j'écris un article, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et il n'y a pas très longtemps, tu vois, j'étais en train de travailler sur mon nouveau bouquin qui va sortir en août. Et donc, en fait, je me disais, il manque dans le bouquin, il manque un petit chapitre pour aller plus loin. Je l'ai rédigé. Et puis, je commençais à rédiger. Je me dis, je vais quand même demander à l'IA de rajouter ça. Et en fait, l'IA m'a fait un plan qui était quand même pas mal, qui était sympa. Il manquait cette petite expertise métier. Comme on dit, c'est toujours ce 80-20. Mm-hmm. Là, je pense qu'on est plutôt sur du 95. Mais donc, il manquait ces 5% que j'ai ajouté un petit peu. Et là, bam, ça l'a fait. Donc, en fait, ça, cette partie-là a disparu. Cette compétence aussi pour faire du script, modifier des choses, là également, ce truc a disparu. En revanche, ce qui se passe, c'est que maintenant, tu deviens plus un gros hacker, tu deviens un chef d'orchestre. C'est-à-dire que moi, je disais toujours, tu avais le T-shape auparavant. C'est ce qu'on appelait la forme de T d'un gros hacker ou d'un marketeur. Tu avais vraiment une expertise globale sur un peu de tout. Et puis, tu avais une grosse verticale. Moi, c'était le SEO, c'était le copywriting, c'était le blogging, c'était LinkedIn, etc. etc. Et tout cela, en fait, ça s'est ramassé. Et tu n'as plus autant un T. Je pense que tu as été plutôt presque sur un tiret quasiment. Parce qu'en fait, tu peux vraiment être excellent. Mm-hmm. Enfin, tu es bon partout. Et là, tu arrives en fait à justement avoir un niveau d'excellence sur certains domaines très précis. Je te donne un exemple hyper pratique. Là, tu vois, on organise une matinale avec nos clients le 28 mai. Donc en fait, ma collègue qui s'occupe normalement du graphisme a été en congé mat et on m'a dit, Fred, va falloir travailler sur la charte graphique de l'événement là. Et c'est là que je dis, ah, la charte graphique de l'événement, d'habitude, toi, je fais appel à un graphiste, etc. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé l'intelligence artificielle. En une heure, deux heures, j'avais en fait cette charte graphique qu'on réutilise encore. Comment j'ai fait? J'ai pris un mood board. Qu'est-ce que je voulais faire? Je suis allé sur Pinterest. J'ai recherché des idées. J'ai cherché une idée de billets de voyage, de croisière. J'ai récupéré une image de la vraie péniche où on allait. Je l'ai transformée en image. J'ai dit, fais-moi du flat design, ta. Et en fait, en quelques minutes, j'ai fait un truc qui était digne d'un graphiste classique. Et donc ça, tu le retrouves partout. Par exemple aussi, je me suis amusé il y a pas très longtemps à faire un petit peu de code parce que tout simplement j'avais besoin de faire des choses dans Salesforce qui est notre CRM, des choses un petit peu compliquées que j'aurais jamais pu faire moi-même parce que d'habitude je demande à mon pote Nicolas, Nico, fais-moi ce petit script là, etc. Et ben j'ai réussi à le faire avec l'IA. Pareil, à un moment donné, je me suis dit, ah tiens, je suis en train d'attaquer maintenant Substack, puisque on dit toujours que Substack devient le nouveau blog. Et quelque part, je trouve que c'est vrai parce que t'as une audience qui est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus passionnée. T'as pas encore cette saturation qu'on trouve en SEO, etc., etc. Même si il y a quand même encore, c'est pas une audience aussi forte que sur Google, mais néanmoins, il y a une audience assez intéressante. Et puis il y a une plateforme qui permet d'envoyer des emails. Bref, voilà, je voulais vraiment attaquer cette partie-là. Et je me suis dit, je vais faire un test qu'on fait sur toutes les plateformes, c'est-à-dire que tu vas liker les publications. Et c'est vrai que tu m'aurais dit il y a 5 ans avant, j'aurais dit, je vais demander à mon assistante de le faire, comme pour LinkedIn, tu vois. Je disais à mon assistante qui est offshore à Madagascar, je lui disais, va sur mon compte LinkedIn tous les jours, tu vas liker et éventuellement, si tu vois, il y a des commentaires faciles, tu fais un petit commentaire sur des publications. Tout ça pour créer un petit peu d'engagement, de la visibilité, etc. Et là, je me suis dit, je vais demander à l'IA. Et c'est vrai que j'ai demandé à Claude, ChatGPT, Gemini. Alors, certains qui disent non, c'est interdit par la loi, blablabla. Mais au final, j'ai eu mon script, j'ai fait mon truc. Maintenant, j'ai une extension Chrome, je clique sur un bouton et ça va auto-liker. Après, justement, dans l'aspect gros hacking, il y a l'aspect mesure. Parce que tu peux très bien faire quelque chose, mais il faut que c'est une efficacité et une rentabilité. Et là, je mesurais et c'est vrai que en faisant ce petit script, en le lançant 2-3 fois, 2-3 fois par semaine, tu récupérais un abonné par semaine, ce qui est relativement nul. Par contre, lorsque je me suis dit, je vais changer de stratégie, j'ai tout simplement cette fois demandé à mon assistante d'aller prendre mes publications LinkedIn, de les mettre en note sur Substack. Là, par contre, je commence à avoir tous les jours, tac, 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 un abonné en plus. Donc, tu vois, t'as des petits trucs comme ça que tu pouvais plus faire, que tu fais. Et en même temps, autant, tu vois, je te disais que mon rôle de chef d'orchestre s'est élargi, autant pour mon assistante, son périmètre s'est rétréci. Mmh. Auparavant, en fait, je lui demandais de faire du résumé de vidéo. Je lui demandais justement de faire ces petites actions-là. Et maintenant, je lui dis, si j'ai besoin de liker des publications LinkedIn, qu'est-ce que je fais? J'ai mon script. Mmh. Je pourrais utiliser aussi, parce que j'ai fait la même chose sur LinkedIn. Hein. Je pourrais très bien aussi utiliser Claude. Je me suis amusé. Hein. J'ai dit à Claude, vas-y, va liker 10 publications chaque jour et fais un commentaire qui est plutôt pas trop mal foutu. Alors, le prompt est un peu sérieux, un peu carré. Ça fait un truc de commentaire qui se voit quand même un peu. On n'est pas encore à la perfection, Mais attention, tu peux pas non plus liker tout n'importe quoi. Moi, j'ai parfois des concurrents, j'ai parfois des partenaires, j'ai des gens qui sont des clients. Donc, tu vois, je me réserve.
Donc, il y a du discernement avoir aussi voilà, dans ces sujets. Ouais, je reviens sur ton sujet. Tu disais T-shape, on a compris, hein, transversalité, une verticalité. Tu dis, c'est en train de bouger, le modèle est en train de changer, on arrive presque au tiré, enfin, au truc plat. On n'est pas en train de peut-être passer aussi dans un modèle où on arriverait à un W, c'est-à-dire qu'en fait, on monterait au-dessus du trait. C'est la change. La question que je voulais te poser, parce que là, on a vu effectivement les compétences qui étaient clés et qui peut-être le sont un peu moins. Tu nous as donné quelques exemples. À l'inverse, qu'est-ce qui, selon toi, est devenu beaucoup plus important?
Alors, je vais te surprendre en te disant que ce qui fait la différence, c'est être curieux et travailler son authenticité. Parce qu'en fait, en gros hacking, comme dans toutes les techniques marketing, quand tout le monde utilise la même chose, ça ne marche plus. Et en fait, tu as eu un niveau d'exigence qui a augmenté de manière vraiment importante au niveau de toutes les actions marketing, du contenu ou peu importe. Et donc, en fait, tu ne peux plus te permettre d'être moyen. Tu vois, j'ai fait une petite publication sur le cold mailing. 95% ou 90% a été rédigé par l'IA parce que j'ai pas le temps, je voulais faire un truc rapidos. Et c'est vrai que j'ai extrait quand même des exemples de cold mailing que j'ai reçus. Et par exemple, j'ai reçu un super exemple de cold mailing que je pense qui a été écrit avec l'IA.
Et en fait, donc ça c'est les emails, les cold mailing, hein, c'est ça, c'est les emails froids entrants de mecs que tu connais pas et qui viennent te solliciter, voilà. C'est ça, d'accord.
Et c'est vrai que c'était quand même bien personnalisé sur mon secteur d'activité. La personne disait, tiens, voilà, j'aimerais bien vous envoyer une séquence de messages qui seront super, etc., etc., qui était vraiment intéressant. Et en même temps, en fait, je me dis, oh, c'est super intéressant. Et je reçois 2 secondes après, bam. Un même message à la même seconde quasiment, mais sur un message qui était pas du tout personnalisé et qui était hors sujet. Et c'est là que tu te rends compte que ça donne des capacités à des personnes de faire des choses exceptionnelles, mais attention, parce qu'en fait, tu peux te planter. Et moi, je me suis planté plusieurs fois. En gros hacking, j'ai testé beaucoup de choses et parfois, je m'en suis mordu les doigts. Je donne toujours cette anecdote qui est hyper drôle. À l'époque, j'avais essayé d'automatiser une partie des choses sur Twitter. Et donc, en fait, j'avais fait appel à un service où c'était des échanges de likes. C'est-à-dire que les gens likaient et commentaient, et toi, tu commentais. Et puis, c'est vrai que je n'ai pas fait gaffe. J'ai pris le crédit de base. Et en fait, bon, je voyais que ça likait. Et puis, tout d'un coup, je reçois, au bout d'un jour ou deux, des gens qui disent « Oh putain, Fred, t'hésites pas. » Et puis, ou un truc comme ça. Puis, une autre nana qui dit « C'est honteux ce que vous faites. Voilà. »
Monsieur Canvey, c'est honteux, monsieur Canvey. C'est honteux, c'est honteux.
Et c'est là, bien. Je me disais mais qu'est-ce qui
Mais qui sont ces gens?
Je regarde sur mon compte. Ben rien n'était, voilà, tout me paraissait normal. Puis je vais dans l'onglet like, et là, je commence à me décomposer. En fait, j'avais donné accès à mon compte Twitter avec des personnes qui likaient des trucs porno, des trucs
mais
qui n'avaient rien à voir, de la publicité, du bitcoin. C'est fait. Oh
aïe, méfiez-vous des machines.
D'accord. Ah ouais, bah, peut-être assurer que j'ai fait. Et surtout qu'au début, je ne me souvenais pas que c'était ça. Donc, j'ai mis, je pense, au moins une demi-heure à trouver l'origine du problème. Donc, je sais pas si tu... Et ça, en fait, je le vois de plus en plus en fait, dans les stratégies marketing. Je vois des gens qui font, qui disent « Ah ouais, mais c'est simple, parce que je peux le faire, je vais le faire. » Et c'est pareil, on parle du cold mailing, qui est une technique qui est vraiment intéressante. Moi, je me réserve, en fait, je mets des limites. C'est-à-dire que je fais du... Chez Locan, on a fait du cold mailing sur des bases qui sont RGPD friendly, par exemple domination, ou alors je le fais avec des contacts LinkedIn de niveau 1, puisque je me dis
c'est une première relation
classique. Ouais. Voilà. Donc donc tu vois, c'est pas parce que tu peux faire les choses que tu dois faire les choses. Voilà, c'est un petit peu différent. Mais bon, c'est pour te dire que cet aspect technicité fait que la barrière à l'entrée diminue. Les gens sont capables de faire vraiment beaucoup de choses. Par exemple, là, j'étais en train de discuter avec un responsable innovation là, et il me disait, bah tiens, moi, je cherche à changer de job actuellement. Je me suis pris Notion, je me suis fait mon mini CRM avec des personnes avec qui j'ai rencontré, avec qui j'ai fait ça. J'ai pris Claude qui m'a réalisé des scripts. Maintenant, je fais des comptes rendus que j'enregistre à l'audio et c'est mis en place dedans. Je fais un suivi et il me dit... Ouais, finalement, je me suis bien amusé. Et là, tu te dis, merde, mec, tu as réussi à faire quelque chose qui était un tour de force il y a quelques années. Donc, en fait, tu t'arrives comme ça sur une régularisation. Ça, c'est le premier aspect. Et deuxième aspect, l'inverse, mais vraiment le total inverse, c'est l'authenticité.
Ah, on arrive un peu sur un sujet différent, parce que moi, je suis comme toi, mais je pense qu'en fait, on est dans une... Il y a une abondance de fous. Tu le disais, la barrière à l'entrée, il n'y en a plus, en fait. Hein, c'est chacun peut faire son truc. Et on sature, quoi. Donc, la question que j'avais envie de te poser, c'est comment on émerge ? Comment on émerge ?
Alors, c'est devenu vraiment un vrai sujet. Tu vois, je discute avec tous mes collègues qui sont chez des éditeurs logiciels ou ailleurs. Ils me disent, voilà, on n'arrive plus. Il y a une saturation parce que tout le monde organise un webinaire, tout le monde envoie des emails, tout le monde envoie des direct messages. En plus, avec les vacances scolaires, tout est rassemblé sur des petites périodes. Et là, en fait, comment tu fais pour sortir ? Et comment sortir du lot ? Pour moi, c'est cet aspect humain et authentique avec de la valeur que tu peux apporter. Moi, par exemple, j'envoie tous les jours. Alors, ça, c'est mon assistante. Je ne fais pas encore avec l'IA, mais elle souhaite les anniversaires pro et personnels tous les jours avec des personnes pour que je ne sois pas uniquement avec un message à pousser promo via mon webinaire.
Elle t'aide à entretenir la relation, c'est ça ?
Voilà. Et pareil, j'aurais pu aussi travailler sur des avatarias, travailler sur des messages qui sont automatisés, la création de contenu automatisé. Et ben, j'essaye quand même de mettre toujours un petit peu d'émotion. Certes, je peux avoir une base de travail. J'aime bien faire mes propres vidéos. J'essaye aussi d'avoir un positionnement qui est différent parce que on arrive vraiment sur une starification de l'économie. C'est-à-dire que si t'es pas dans le top 5 des références dans ton domaine, et ben en fait, tu n'existes pas et tu vas récupérer les miettes. Comme dans le top 50, il y a des 10 ou 20 ventes d'albums, c'est eux qui ramassent le jackpot, les autres après sont méconnus. Donc tu dois être vraiment la référence et la cible, la personne qu'on cite dans ton secteur d'activité. Et pour cela, tu dois choisir un positionnement tranché. Et j'aime bien en fait montrer un exemple, Gabriel Dabichwebel, qui lui en fait a justement trouvé le bon positionnement, la bonne cible. Il est sur les consultants stratégiques qui doivent faire face à l'IA. Tu vois ses publications, elles font 500, 700, 1000, 1200 likes. Ouais. Il a des dizaines de commentaires et tu vois, il a fait une formation spéciale IA au niveau usage de l'IA au niveau stratégique que j'ai suivi avec lui, avec grand plaisir. Et ben en fait, tu vois que ça touche parce qu'il a choisi des personnes qui ont un problème urgent important qui est monétisable. Et donc, en fait, il a trouvé la bonne formule. Comme il me dit, j'ai trouvé la pattern. C'est une pattern, en fait, qu'il réutilise avec de l'émotion. Certes, c'est une écriture IA et il le dit. Hein, j'ai écrit cet article qui a été écrit avec l'IA. Le visuel est fait avec l'IA. Mais en fait, ça parle aux gens parce que ça met de l'émotion. Donc, cette émotion est importante. En même temps, les parties émotions, c'est également cette partie neurosciences. Puisque nous, on le voit chez Locan, avec l'augmentation de l'usage de l'intelligence artificielle pour toutes les, pour toutes les interactions, chatbot, callbot, email, etc., etc., il faut plus louper lors des moments de vérité. Et c'est là, en fait, que l'humain va arriver. Alors, de l'humain augmenté, par exemple, en fait, on fait souvent des webinaires avec Marc Bandrimanen, qui est un expert en neurosciences.
Ouais,
et donc, en fait, il nous explique comment on va pouvoir utiliser les bons mots, les bons messages. Par exemple, il nous dit, voilà, quand tu as une personne au téléphone et que tu essaies de lui vendre, il faut créer de la confiance, de l'authenticité. Par exemple, quand tu vends des pompes à chaleur, tu ne vas pas lui dire, j'ai une pompe à chaleur, ça sert à ci, à ça. Non, tu vas essayer de créer du lien en lui expliquant les choses. Une pompe à chaleur, c'est comme toi en hiver, quand tu expires, ça fait de l'air chaud. Quand tu inspires, ça fait de l'air froid. La pompe à chaleur, ça fait la même chose. Quand on dit, il faut qu'on vienne chez vous pour mesurer vos pièces, et la personne dit, mais je vous dis les distances, il n'y a pas besoin de venir chez moi. Si, je vous explique, parce que c'est quand même une paire de chaussures. Vous avez besoin d'avoir quelque chose qui soit la bonne taille, pas quelque chose qui est trop grand, trop petit, autrement vous allez dépenser trop d'argent, vous allez au contraire être dans le froid. Pareil, il nous dit, quand tu as quelqu'un au téléphone, utilise la psychologie. Il nous a montré un exemple qui est excellent. C'est en fait dans un domaine bancaire. Tu vois, il y a des gens qui viennent en fait pour faire une souscription de prêt et les conseillers n'arrivent pas à vendre tout ce qui est assurance obsèques, etc., tout ce qu'on appelle la prévoyance, parce que le client n'est pas venu pour ça. C'est un sujet un peu délicat à aborder. Tu vas pas dire, et si vous mourrez, qu'est-ce qui se passe? Et donc, résultat, les gens n'arrivent pas à vendre. Et il nous a dit, ok, moi j'ai analysé d'un côté les sentiments du client, d'un côté le sentiment du collaborateur, et comment on peut faire pour réaligner ça. Et il a utilisé une technique de neurosciences qui s'appelle l'amorce, c'est-à-dire que quand les personnes arrivent, le conseiller dit, Bon, alors oui, on va faire votre rendez-vous, mais bon, rappelez-moi que j'ai quelque chose d'important à vous dire qui concerne en fait des personnes comme vous qui souscrivent à un emprunt. Bon, ce n'est pas le sujet de la conversation d'aujourd'hui, mais on en reparlera tout à l'heure. Hein, vraiment, c'est important. Bon, alors, passons à votre sujet. Et à la fin, en fait, c'est les gens qui disent « Bon, en fait, vous ne vouliez pas me dire un truc important tout à l'heure ?» Et là, en fait, le conseiller dit « Ah oui, c'est vrai, je voulais parler de la prévoyance parce que c'est vrai que si vous avez un souci de santé, ta 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 ta. » Et en fait, plus il y aura d'IA, plus l'humain sera important. Et là, justement, il faut utiliser l'IA pour soit avoir de l'humain augmenté, donc lui donner plus de capacités, soit tout simplement pour lui permettre de mieux se concentrer sur la personne en face.
Alors justement, j'ai bien compris. Je vois bien ton un peu ton pattern. Hein, en fait, donc il faut des idées, il faut avoir un objectif, il faut avoir des idées, il faut mettre de l'empathie. Tu mets où l'IA ? Si tu devais expliquer un peu l'équation, dans quel ordre on met les choses ? On démarre par quoi ? Au milieu, il y a quoi ? Et à la fin, il y a quoi ?
Alors, pour moi, il faut toujours commencer par toi. Toi, c'est ce que je discutais avec la Maïf. Hein. Il y avait donc deux personnes qui sont chargées de l'expérience client à la Maïf, qui sont nos clients. Et ils nous disaient, c'est humain au départ, l'IA au milieu et l'humain à la fin. Puisqu'en fait, si tu perds ce fil-là, tu déshumanises. Et ils avaient un truc qui était assez drôle parce qu'ils disaient, voilà, eux, ils veulent toujours de l'humain en front office et l'IA en back office. Et donc, en fait, ils avaient refondu des courriers et ils avaient été un petit peu étonnés parce qu'il y avait des gens qui disaient, ouais, mais c'est une IA qui m'écrit alors que c'était un être humain. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il faut se dire, OK, quand je fais quelque chose, je commence par mon idée. Un exemple concret. Là, tu vois, nous, on fait régulièrement des événements, des webinaires, etc. Et donc, on essaie toujours de trouver un titre qui va cartonné qui va faire la différence par rapport aux autres. Et pour cela, en fait, moi, je travaille toujours soit à la main, sur papier, soit en fait avec en tapant en fait ce que je veux. J'essaie de trouver 10, 20 trucs, titres intéressants. Alors, j'essaie toujours de me dire, mais pourquoi le mec consacrait une heure de son temps ? Pourquoi il serait chier à venir nous voir alors qu'il a des trucs plus importants à titre pro et perso ? On essaye de voir cette valeur, qu'est-ce qui va l'intéresser. Une fois que j'ai fait ça, je l'envoie dans DeepSeek, qui est l'IA chinoise, qui je trouve très bonne sur la créativité, contrairement aux autres IA qui restent toujours un peu sur les mêmes suggestions. Je dis, voilà, crée-moi 60 suggestions de titres. Là, tu vas en faire 5 sur la partie chiffres, 6 sur la partie, 5 sur la partie émotion, 5 avec des chiffres que tu vas noter, 5 que tu vas faire où ça va être des trucs étonnants, 5 où tu vas faire de l'humour, ta, 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 ta. Donc, je lui demande une fois, deux fois, on itère là-dessus. Et à la fin, en fait, généralement, ce que je fais, c'est que j'arrive à mixer des trucs. Je dis, voilà, entre-temps, je lui dis, prends ces 5-là et fais quelque chose de plus impactant. Prends ces 5-là maintenant et j'essaie de raffiner. Et à la fin, donc, allez, 99% des cas, finalement, ce n'est pas l'accroche de l'IA qu'on prend, mais c'est un mix des deux. Ce que je fais, moi, une accroche qu'il a fait, et en fait, on arrive comme ça à créer de l'humain augmenté. On se dit toujours, c'est l'IA et l'intelligence artificielle, ça ne fait pas 1 plus 1, ça fait 1 plus 1 est égal à 2,5, quoi. Donc, ouais. On est vraiment dans cet aspect co-création. Et pour moi, il ne faut surtout pas perdre cette capacité-là parce qu'en fait, autrement, on va devenir très dépendant et on va se scléroser avec tout le temps la même chose. Et on le voit un petit peu dans toutes les publications parfois où ça se ressemble. On voit sur les titres, on voit, c'est dans un monde où, etc., etc.
In a world, donc, en fait, c'est inspiré des bandes-annonces, des films, in a world, la voix vachement grave.
Ouais, voilà. Et c'est pour ça que c'est des outils comme Claude qui sont vraiment bien parce que tu peux en fait lui donner des exemples de skills, des exemples avec tes skills qui permettent en fait de cadrer, etc. En revanche, on ne peut pas tout faire. Je te parlais de mon bouquin là qui va sortir.
Alors, tu peux nous donner le nom de ce bouquin, tu l'as déjà le nom ou pas, ou tu le feras à la fin ?
Business Express.
J'adore, c'est bon ça.
Ouais, on a eu du mal à le trouver. C'est un projet en fait que j'ai fait avec Jean-Paul Crène qui a duré sur un an et demi parce qu'on part d'un constat que les gens n'ont plus le temps. Les gens n'aiment plus lire, ils veulent de l'action et des résultats. Et c'est vrai qu'on le constate partout. Là, on passe du temps, on va passer 45 minutes de temps au téléphone, en podcast. Ouais. Mais en fait, le temps des gens est précieux. Et donc, tu fais un format long où tu vas échanger, tu vas faire de la valeur, tu vas vraiment essayer de rentrer dans le fond du sujet. Soit au contraire, tu veux leur apporter un maximum de valeur en minimum de temps et avec un minimum d'effort. C'est comme lire un article de blog ou n'importe quoi. Les gens, maintenant, c'est un peu fainéant. Des fois, les gens me disent, ouais, putain, tes articles sont tellement longs que j'ai pas envie de lire, que ça donne pas envie de lire. Et pourtant, tu vas voir que sur certaines plateformes, les vidéos qui marchent le mieux, mes vidéos à moi, c'est vidéo longue, c'est pas une vidéo de 30 secondes. Il faut vraiment se dire que tu as une dichotomie entre le snack content qui est très court, très très concentré, et le contenu long qui va dans l'expertise. Pour moi, le contenu long reste toujours valable, comme ton podcast ici, parce qu'en fait, tu apportes vraiment de la valeur. Mais bon, pour revenir à notre sujet, qui était merde, je me souviens plus d'ailleurs, qui était oui, il faut des contenus longs. Et donc, il faut accepter d'avoir des contenus un peu plus longs pour se différencier, sortir de la masse. Et c'est là, en fait, que tu vas créer du lien. C'est un podcast, c'est être avec l'écoute de la personne dans les oreilles, etc. etc. Mmh. C'est là que tu vas véritablement te différencier. Et c'est pour ça que, pour moi, je trouve que le contenu long reste encore clé, parce que tu vas créer ce fameux lien, cette fameuse authenticité. Et on revient toujours sur le même sujet. Qu'est-ce qui va me distinguer d'un autre? Comment je vais respecter son temps? Et moi, je dis, bah voilà, sur ce bouquin-là, nous, on est parti du principe que oui, ça va être un bouquin de 260 pages, mais c'est une action à mener par jour en 30 minutes. Et on te dit pourquoi. On te donne un plan d'action à suivre en 30 minutes. On te donne une dose d'inspiration. Et ensuite, on te donne un prompt que tu vas pouvoir copier-coller. Parce que c'est vrai que, mine de rien, l'intelligence artificielle est devenue véritablement un bon coach. Alors, ça fait pas tout. Par exemple, pour le bouquin, à un moment donné, on s'est dit, on va créer des modèles, par exemple, de plans d'action. Je lui ai donné 4-5 plans d'action. Fais-moi la même chose. Je lui donnais soit l'oral, soit en fait avec des plans détaillés, le truc. Mais sauf qu'en fait, l'IA est très bonne pour diluer. Par contre, elle n'est pas très bonne pour concentrer. Quand chaque mot compte, tu ne peux pas faire appel à l'IA en solo.
Ok, très clair. Merci beaucoup. Tiens, bon, on fera le crash test un peu. Tu me diras ce qu'on peut faire en gros hacking sur notre app. Ça sera peut-être à la fin. Ça sera le cadeau à la fin. Merci pour tout ça, Fred. Tu le disais, en fait, tout le monde peut produire, tout le monde peut automatiser. La concurrence devient plus forte, le niveau moyen monte. Ok, une fois qu'on a dit ça, c'est super. Tu disais, il faut être parmi les 5 premiers. Comment on s'y prend pour de vrai, quoi? C'est-à-dire que tu disais, Gabriel, a choisi un truc. De faire. Vas-y, comment tu fais?
Ouais. Déjà, la première chose, c'est choisir ses combats. Tu ne peux pas être partout présent sur toutes les plateformes. Moi, tu vois, j'ai fait un choix qui a été difficile pour moi, puisque j'ai délaissé mon blog que je tenais depuis 2006, qui est, t'imagines, 20 ans à tenir un blog. Et là, tu dis, merde, c'est un travail immense. Et ben, en fait, tu te rends compte que ça devenait plus compliqué. Donc, j'ai migré sur LinkedIn et j'ai préféré cette plateforme parce que il y a plus d'interactions. C'est plus riche. Il y avait encore du rich, là, il y en a moins. Mais en fait, ça reste la plateforme qui était plus pertinente pour moi. Tu peux te dire aussi, tiens, je vais faire plutôt du TikTok, je vais faire plutôt du podcast. Enfin, choisir selon tes compétences, ton audience.
Puis là où on est à l'aise, non? Je présume c'est là où on est à l'aise aussi, non? C'est le sujet, c'est de dire, je vais à l'endroit où je me sens bien, quoi. Enfin, je pense que c'est ça. Hein. Parce que c'est beaucoup d'énergie. C'est beaucoup d'énergie.
Il y a de l'attraction et ouais, tu peux le faire. Deuxième chose, c'est se dire, OK, maintenant, je peux plus réussir tout seul. Enfin, ça devient compliqué de réussir tout seul à avoir de la visibilité, puisque ça prend du temps, on est quand même un petit peu sujet à l'algo, etc. Donc à ce moment-là, ok, ce qui est intéressant, c'est de te concentrer sur ce qui va te rapporter du business. Un exemple, moi en fait, tu vois, dans le domaine de l'expérience client, j'estime qu'on a à peu près entre 10 et 15 000 personnes qui sont dans notre cible à nous. Et donc ce que je fais, c'est que toutes les semaines, j'ajoute 100 personnes sur mon compte LinkedIn, et comme ça, chaque année, je grossis ma communauté. Et cette communauté-là, je l'alimente.
Mais comment tu fais pour ajouter 100 personnes par semaine? C'est eux qui viennent à... T'as mis des aimants, c'est quoi?
Justement, moi, j'utilise LinkedIn Helper, tu peux utiliser Wallaxy, tu peux utiliser X outils, il y a Canbox aussi qui est très bien. Et okay, donc, en fait, j'essaye d'aller au taquet là-dessus et de me dire, OK, une fois que tu rassembles ces personnes-là, tu vas animer cette communauté. Alors, moi, depuis des années que la publication de contenu, c'est pas ça qui fait marcher, et c'est vrai, puisqu'en fait, tu ne choisis pas à qui c'est affiché, tu sais pas si c'est un succès ou pas, et maintenant, quand tu fais 5000 vues, tu es déjà hyper content, ça devient la folie. Donc, en fait, tu crées du contenu pour créer du lien et rappeler ta présence. Mais ce qui va faire la différence, c'est la connexion que tu vas faire avec les personnes. Et c'est pour ça que moi, tu vois, j'envoie régulièrement ces fameux anniversaires, j'envoie des invitations à des webinaires, j'envoie des invitations à ce qu'on se voit sur un salon. Je crée un petit peu ce lien-là.
La relation, et, quoi. Le lien humain, ouais, OK.
Ouais. Et là, tu vois aussi, alors c'est mon assistante qui s'en charge. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai une nouvelle personne qui arrive dans mon compte, mon assistante souhaite la bienvenue en mettant le prénom, sans faute, en mettant le nom de l'entreprise, des choses en fait qu'on ne peut pas faire automatiquement parce qu'il y a toujours un problème. Est-ce que la personne qui est là, est-ce qu'elle est freelance, est-ce que c'est un job pour chercher du boulot, blablabla. Donc
question là-dessus, parce que moi il y a un truc qui me turlupine depuis tout à l'heure. Tu nous parles de l'IA d'un côté, de ton assistante humaine de l'autre. Ok, c'est super, t'as automatisé le fait de dire bonjour et sympa, mais si les gens le savent, ça cache pas un petit truc, c'est-à-dire que c'est de la relation, alors qu'effectivement, moi, quand j'ai un souhait de bon anniversaire de Fred, de Frédéric Canvé, je me dis, c'est lui. S'il a délégué à quelqu'un qui écrit pour lui, qui se fait passer pour lui, moi, ça me choque un peu. Je suis le seul, tu penses?
Alors, c'est pour ça qu'en fait, ma philosophie, c'est le premier message peut être automatique, par contre, le second message est toujours manuel. C'est-à-dire que mon assistante ou l'IA va faire un message ou un truc ou un outil d'automatisation, hein, tu n'es pas obligé d'utiliser l'IA systématiquement, et ben en fait derrière c'est moi qui vais répondre tout le temps. Et là par contre je mets de l'humain, parfois ça arrive que ça ne marche pas. Par exemple, tu vois, il n'y a pas longtemps j'ai envoyé un message et j'avais fait une erreur, j'avais filé le texte à Gemini, j'avais fait un speed testing entre deux types de messages pour voir lequel marcherait le mieux. Et dans le second message, en fait, j'avais mis dans Gemini, et il a oublié de me, il m'a laissé, il m'a traduit prénom, enfin first name par prénom. Sauf que mon outil, il comprenait first name, il comprenait pas prénom. Donc il mettait bonjour prénom. Et là, bam, je me retrouve avec quasiment 100 messages envoyés. Je dis oh merde. Et là, en fait, je me suis excusé. J'ai dit ah, je suis désolé. C'est vraiment, je fais pas ça d'habitude. Enfin, je dis je suis une erreur. Veuillez m'excuser. Blablabla.
Non, mais t'as ramené de l'humain. En fait, t'as ramené de l'humain. Donc peut-être que t'as ramené encore plus de relations en disant this guy takes care. Ouais, c'est super.
Et puis là, je dis bah vraiment, je suis désolé. Et c'est vrai que bon, il y a quelques personnes qui sont parties. Bon, voilà. Mais à d'autres qui m'ont dit ah, c'est rare que quelqu'un s'excuse quand il y a ce genre de message là.
Les meilleurs sont restés. Voilà. Les meilleurs sont restés.
Voilà. Ouais. Et en fait, ça a même été un truc de dire ouais, est-ce qu'on se verra vraiment au salon et tout ça. Je l'ai automatisé parce que je voulais gagner un petit peu de temps, blablabla. Bon. Mais là, il faut, c'est encore le risque. Toi, on parle toujours de ce fameux risque-là.
Tu nous disais, t'as levé le pied sur ton blog, t'as accéléré sur LinkedIn, tu es aussi sur Substack, hein, conseilmarketing.substack.com. Justement, tu fais du growth sur ta newsletter ou c'est parce que à l'heure où on enregistre, tu as publié il y a quelques heures un billet hein, sur Substack. Ça devient tu penses que c'est vers là que tu vas t'orienter le plus ou tu joues une combinatoire LinkedIn, Substack?
Alors,
et autre chose?
Pour l'instant, Substack, j'utilise pour plusieurs raisons. La première, en fait, c'est que tu vois, j'ai une solution d'emailing qui s'appelle GetResponse qui me sert à accueillir les nouveaux prospects, ceux qui sont actifs, etc. Et le problème, c'est que bah, tu sais comme moi, tu as un taux d'ouverture de 25-30% de tes emails. Et jusqu'à présent, qu'est-ce que je faisais? Bah, j'utilisais Brevo ou j'utilisais d'autres outils à côté pour envoyer la newsletter sur tous ceux qui étaient inactifs. Et c'est vrai que je me suis dit, merde, ça marche pas trop, ça ouvre pas trop. Et donc, j'ai transféré tous ces inactifs sur Substack et c'est gratuit. Et donc, en fait, c'est vrai que j'ai pas mis des désabonnés, hein. J'ai vraiment mis que des gens qui étaient inactifs. Et je me suis retrouvé comme ça tout d'un coup avec une masse de, je crois que c'est de 80 000 personnes. Alors, bien sûr, ça a diminué au fil du temps, mais comme ça, j'ai réussi à avoir une masse de 80 000 personnes. Ensuite, moi, Substack, j'aime bien Substack. Parce qu'en fait, je lis des trucs qui sont pertinents, qui sont de la qualité et par rapport à LinkedIn où on est, je trouve que LinkedIn devient un peu un Facebook un petit peu voilà avec des émotions, des machins, moins de qualité pertinente. Là, je trouve que sur Substack, cette qualité reste. Alors, je pense que ça ne durera pas.
Ouais, je suis d'accord avec toi. ils arrivent, ouais, ils arrivent. Les mêmes qui sont venus polluer Facebook, qui après sont venus polluer LinkedIn, vont arriver dans Substack, c'est pas grave, il y aura peut-être un remplaçant à Substack, j'en sais rien.
Mais quelque part, je trouve que c'est bien parce que ça permet de dialoguer avec ta communauté et d'écrire des choses longues. Moi, je n'écris jamais des choses longues. Mais là, tu vois, sur Substack, je vois que si tu écris des choses longues, ce n'est pas forcément ce qui est privilégié par l'algo. C'est pour ça que je demande à mon assistante de recopier les publications sur Substack qui ont de la valeur. Tu mets pas les événements, tu mets pas les trucs, mais tu mets les choses qui sont vraiment intéressantes. Et ça, en fait, tu permets de créer, enfin, tu vas quand même créer du lien. Mais la clé sur Substack reste encore ta base email. Puisqu'en fait, si tu vas te dire sur Substack, je vais publier des articles, je vais publier des notes, tu n'auras zéro trafic, enfin zéro, très peu de trafic. C'est comme partout, il faut que tu aies ton, en fait, t'as un seuil à atteindre, et ce seuil à atteindre de visibilité, le gros acquis va t'aider à l'obtenir. Comme l'exemple que je t'ai donné, c'est envoyer les désabonnés et les mettre là-dessus. L'autre exemple, comme je te disais, c'était les likes, mais ça, j'utilise quasiment plus parce que c'est pas efficace. L'autre exemple, c'est prendre mes publications LinkedIn et demander à mon assistant de le faire. Pour l'instant, l'IA, c'est pas bien le faire, et puis c'est sensible, puisqu'en fait, une fois, mon assistante, elle a oublié de décocher, ne pas envoyer le message en fait à l'ensemble de la base, et pour une petite publication minable, paf, il y a 80 000 messages qui sont partis, et forcément, je me suis tapé une palanquée. Je crois que je me suis tapé 200 ou 300 désabonnements à la suite. Et là, tu dis. Sabrina, je t'ai dit de décocher le bouton.
Mais tu vois l'efficacité de Sabrina, en fait, dans l'autre sens. C'est quand elle fait pas de bêtises, c'est que ça marche. Tiens, ok. Ouais. Merci pour ça, Fred. Et merci pour la sincérité et l'authenticité. Tu nous en parlais tout à l'heure comme une valeur hyper importante de ta réponse. Et merci de soulever le capot de ce que tu vis.
Là,
c'est bien.
C'est ce que tu vas partager, parce que moi je le vois avec mon co-auteur là pour le livre, Jean-Paul. Moi en fait j'ai donné quasiment tout le temps des exemples personnels qui viennent de moi. Puis Jean-Paul m'a dit oh, mais des fois j'en connaissais pas trop. J'ai pris des exemples grand public, mais qui étaient de lui ou qui ont été mis par l'IA, je sais pas exactement. Mais des fois je me dis est-ce que vraiment avoir des infos sur Netflix et ou sur Nokia. Ou sur d'autres gros bois, Alan ou des choses comme ça, pour rester un peu plus franco-français, est-ce que ça va vraiment être quelque chose qui va inspirer les gens? Moi, je préfère toujours parler des choses que j'ai fait moi et qui sont qui apportent de la valeur. Et toi, dans le bouquin, donc il y a ce fameux livre, mais aussi on a mis en place un système de podcast où en fait on va enregistrer en audio des choses en plus.
Génial.
Et c'est vrai que moi, quand, tu vois, je faisais du réutilisation, je faisais un article de blog, je réutilisais pour faire un podcast. Alors, je le fais plus maintenant, mais à l'époque, ce que je faisais, c'est que je rajoutais des choses, je discutais, je disais des motions. Tu vois, ma collègue Chantal, elle a un discours très corporate. Quand elle écrit pour Eloquent, elle écrit vraiment comme, je dis pas un vieux prof de français, mais elle écrit vraiment en outre, machin. Et le problème, c'est que ces publications-là, ça n'accroche plus.
Pas.
Parce qu'en fait, tu n'as pas de l'humain. Et surtout, ce genre de publication peut être reprise par l'IA. Par contre, quand tu as un témoignage d'un client, quand tu as un témoignage de quelqu'un qui a raconté son histoire, qui a raconté ses anecdotes, qui dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, là, tu vas créer de la confiance, là, tu vas créer de l'authenticité.
Ouais.
Et c'est ça, en fait, qu'il faut rechercher.
Donc, ce que j'entends, hein, c'est très proche d'ailleurs des sujets quand on parle du SEO et du JEO. Hein, c'est-à-dire que c'est pour être référencé, en fait, il faut finalement parler aux gens, résoudre un sujet et pas parler du produit, en fait, c'est ce que tu disais, hein. C'est-à-dire c'est partir sur des cas concrets, et parce que c'est ça qui est trouvable encore mieux par les IA, je pense, hein. C'est-à-dire que c'est des sujets qui aident à trouver la solution. Rappelez-vous, ces IA sont là pour donner la réponse. Donc réfléchissez à la réponse.
Je dirais qu'il n'y a pas de solution non plus miracle.
Ah non, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, comme dirait l'autre. c'est sûr.
Parce qu'en fait, quand je t'ai parlé de polarisation avec la starification, on retrouve en fait la même situation avec le positionnement. En fait, tu peux être dans un... Et les deux marchent. Hein. Tu peux être dans un positionnement de volume où tu fais vraiment du volume, de la bouse. Enfin, pas de la bouse, du slop, comme on dit.
Ouais.
Tu vas créer du contenu en veux-tu, en voya. Et de l'autre côté, tu peux être sur le positionnement premium où tu vas vraiment apporter de la valeur, de l'expertise. C'est vrai, comme Fred Cavazza, tu vois, qui est vraiment très pointu, très précis. Mais les deux peuvent réussir. J'ai un ami là qui... David Ellerard, Fabien Ellerard, excuse-moi, Fabien, parce qu'en fait il a un pseudo. Fabien Ellerard, lui en fait c'est un spécialiste du SEO et de la création de contenu. Il a généré pendant des années 200 sites avec des dizaines d'articles. Et c'est vrai qu'il a fait des tests, générer automatiquement des articles, mais à l'appel. Et c'est vrai que il me dit mais ok, comme ça me coûte quasiment rien, j'arrive en fait comme ça à me placer sur certaines thématiques et en utilisant des stratégies de d'être indexé dans Google News, d'amener un petit peu de trafic, de faire des TLDR, Trillion Digital Grid, de faire des FAQ, de faire des tables comparatifs. Et bien finalement, tu montes petit à petit et tu arrives à te positionner sur des expressions. Tandis que moi, des fois, je le vois, j'écris un article avec passion sur des choses que j'aime bien, ça ne marche pas. Et pourtant, je trouve que mon contenu est aussi intéressant que sur Ania, voire même plus, parce qu'en fait, tu as des exemples humains. Mais,
en fait, c'est toujours la même chose, si tu veux. T'en as qui pêchent, je dirais, à la dynamite, qui font de l'épandage. Et puis, tu as ceux qui pêchent à la ligne, mais qui savent où est le bon coin, là où il y a les bons poissons. Donc, en fait, c'est très intéressant. Je trouve que ça, finalement, on en revient toujours à peu près à la même chose. Quoi. C'est ce que tu veux faire et quelle est ta stratégie.
Il n'y a pas une route vers la réussite, ouais. Il y en a plusieurs. Ouais. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que les barrières sont beaucoup plus petites. Et par exemple, là, tu parlais de comment je pourrais faire si toi, avec ton application.
Alors c'est le moment. Raconte-nous, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors je rappelle pour celles et ceux qui nous écoutent qu'on passe le vide.
Hein, on a vraiment pas préparé.
Je te donne le brief. Hein. Donc, NoteTaker AI 100% local. C'est une application qui tourne sur iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, ouais, la Watch et Apple Vision Pro. Voilà, donc ça, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle fait ? Là où elle est très sympa, c'est qu'en fait, elle utilise les IA qui sont déjà présentes dans votre device Apple. C'est-à-dire que ça ne va pas chercher sur le cloud, ça ne va pas chercher sur... voilà, et ça marche même si vous n'êtes pas connecté. Et ce que vous dites à votre appli restera dans l'appli. Ça va nulle part ailleurs que votre smartphone, par exemple, hein, vos devices Apple. C'est tout nouveau parce qu'en fait, on utilise des IA qui sont déjà embarquées dans votre téléphone. C'est celle que Apple propose. L'appli est très simple. Vous faites un vocal, vous avez une note toi, qui bouge beaucoup, tu as plein d'idées. Bah, tiens, tu prends des notes, tu peux parler entre 10 secondes et 5 heures si tu veux. Et l'IA qui est dedans, dans cette appli, va... écouter ce que tu dis, va le transcrire, va venir l'analyser, va te faire un compte-rendu, va te faire des actions, se connecte avec, si tu l'as décidé, avec ton calendrier, va se connecter avec tes notes, tes reminders. Voilà, j'ai fait à peu près le pitch, mal fait parce que je ne suis pas start-upper. Qu'est-ce que tu fais avec ça ? Comment tu nous arrives à faire en sorte qu'on soit number one sur l'Apple Store ?
Alors, je ne rentrerai pas sur les optimisations que tu peux faire pour être plus visible sur Apple, mais bon, je serais un peu tenté quand même de le faire en essayant des reviews, d'avoir plus de reviews, plus d'installations. Alors, j'éviterai bien entendu les faux avis qui sont faits par des Indiens, etc. Mais il faut se dire, mais quels sont les leviers que j'ai ? Déjà, tu dis, j'irais même. Au départ, c'est dire qui est mon persona. Et il y a un ou deux prompts que j'aime beaucoup qui sont les discussions en mode focus group. En mode focus group avec l'IA, tu vas pouvoir définir il va te proposer trois personas. Le mec qui était, pour toi dans ta cible, ça serait un mec qui est très sérieux IT, le mec qui est à fond sur le marketing, l'autre personne, par exemple, qui est sur payer des choses moins chères, j'en sais rien. Voilà, j'aurais mes différents personas et j'essaie d'identifier ce qui leur convient. Donc voilà, quelle est mon offre et je me positionne de manière totalement différente par rapport à tous les outils de NoteTaker. Pourquoi moi plutôt qu'un autre ? Déjà ça, je renforce mon offre et je me dis je ne vais pas plaire à tout le monde. Ça, et je trouve que l'IA aide vraiment beaucoup là-dessus parce que c'est le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils pensent à un produit, mais ils ne pensent pas au client.
Okay.
Et donc, c'est la fameuse technique « job to be done ». Je ne vais pas vendre une perceuse, je vais vendre le trou. Et donc, en fait, toi, c'est quoi le trou que tu vends ?
Ok, moi, c'est privacy. Nous, c'est privacy et c'est l'IA privée. Tu vois, c'est l'IA qui est privée, qui, voilà, c'est ça. Genre, c'est pas très,
donc là, en fait,
pas
là,
très vendeur, mais tu vois, c'est...
Là, tout de suite, toi, tu t'adresses pas à n'importe qui. C'est-à-dire que tu t'adresses aux gens qui sont plutôt sur la souveraineté, la sécurité, etc., etc. Donc là, c'est déjà une bonne chose. Ensuite,
elle est gratuite. Elle est gratuite en plus. C'est l'IA gratuite en plus.
Mais les gens savent.
Tu l'as déjà payé.
Si c'est gratuit, c'est toi le produit.
Non. Si tu l'as déjà payé. En fait, l'avantage, c'est que tu l'as déjà payé parce que quand tu as acheté un iPhone, elle est dedans. À part que tu l'utilises pas aujourd'hui. Non, mais c'est pas ça le sujet. Nous, c'est cadeau. Tu vois, donc le sujet, c'est pas de faire de l'argent avec. Tu vois, c'est cadeau. Et c'est au contraire de dire, vous avez déjà payé pour de l'IA, mais vous l'utilisez pas. Donc on vous la révèle.
Alors ensuite, il y aura les leviers donc à utiliser pour être plus visible. Donc en fait, je travaillerai bien sûr sur la douleur et le plaisir. Alors donc là, tu as le persona, mais quelle est la douleur que tu vas travailler ? La douleur chez quelqu'un, c'est pourquoi en fait il se dit dans mon entreprise, j'ai pas envie que ce soit partagé ou j'ai des sujets délicats. Peut-être que toi. Finalement, ta cible, c'est peut-être le personnel médical, c'est peut-être les personnes qui sont dans tel sujet. Et là, ça te permettra vraiment d'identifier les bonnes personnes. Ensuite, tu as les leviers. Donc, les leviers, où tu vas utiliser plusieurs leviers. Le premier, bah, c'est le plus simple, c'est comment je vais être plus présent dans l'Apple Store, qui est le premier levier simple à avoir. Et donc là, on en a parlé, on sait très bien que ce qui compte, c'est les avis, c'est le nombre d'installations, etc. etc. Ouais. Et moi, en fait, j'utiliserai les techniques de growth hacking pour augmenter ce truc-là sans me faire repérer. Alors, il y aura des techniques d'optimisation du titre, mais comme je te dis, les installations, les avis, c'est quelque chose qui est important et je demanderai bien sûr d'abord un noyau, enfin, le growth hacking, c'est toujours comme ça, on commence par faire des choses non automatisables au départ, on voit ce que ça donne et ensuite on automatise et pas l'inverse, on va pas envoyer un message automatique, on va pas faire ceci, mais moi je travaillerai là-dessus. Et donc j'irai sur déjà les bases que je connais, donc toi, toutes les personnes que tu connais sur ton téléphone, aidez-moi. Et c'est vrai que c'est sa communauté proche qui est la plus importante. Aidez-moi, je viens de lancer avec mon fils une application qui est super géniale. On cherche, elle est vraiment là pour répondre à tel truc, telle problématique. Essaye-le. Je voudrais juste avoir un retour de ta part. C'est pas la peine de. Je te demande pas de donner un avis si ça t'intéresse pas, mais j'aimerais avoir le retour.
Qu'est-ce que t'en penses? D'accord. Ok.
Ma communauté. Ensuite, tu vas sur ton compte LinkedIn. Je sais pas, t'as combien de contacts sur LinkedIn?
Je crois que je dois être à, je sais plus, 10 000, un truc comme ça, mais 10 000. Ça marche plus, voilà. Tu vois, ça marche plus. Enfin, tu vois, c'est...
Direct message LinkedIn, tu envoies à une cible. Ouais. En fait, tu vas dans LinkedIn, tu vas dans confidentialité, préférences et confidentialité, tu vas dans données confidentialité, je crois, après, tu fais télécharge tes archives, tu reçois dans les deux heures une liste Excel avec l'ensemble de tes contacts. Tu filtres ensuite selon la profession. Tu filtres selon les personnes que tu connais ou pas. Généralement, moi, ce que je fais, c'est que je mets un tu et un vous, parce qu'il y a des gens que tu vas vous voyer, des gens que tu vas tutoyer. Et bien sûr, après, c'est parti. Tu utilises LinkedIn Helper, ça coûte 9 euros par mois. Et donc, c'est parti. Tu leur dis, ben, salut, je viens de lancer un super projet. Est-ce que tu pourrais m'aider, etc. T'as ta newsletter également. T'as une newsletter qui est sur Substack, je le sais, mais t'as aussi une partie des gens qui ne lisent pas sur Substack. Je sais pas combien t'as taux de lecture, mais généralement, un Substack, t'as allé peut-être 20-30% maxi. C'est-à-dire que t'as 70% des gens qui ne lisent pas. Donc, qu'est-ce que je fais? J'extrais ces emails des non-lecteurs, je les mets dans une autre solution d'emailing. Moi, j'ai fait l'inverse. Je suis passé de GetResponse à Substack, mais tu peux utiliser, par exemple, des outils qui sont à l'envoi, comme du Brevo, comme du Medjet, comme des outils américains, peu importe. Et là, tu envoies sur ces non-actifs-là. Alors, tu peux faire ça, bien sûr, par petit lot, parce que tu ne vas pas griller ton adresse mail, tu l'utilises sur un nom de domaine, tu fais des petits envois. Je l'ai même fait, je te dirais, en technique de growth hacking, je l'ai fait avec du Gmail. Rien ne t'empêche de créer une adresse email @gmail, machin, tatada, et tu peux envoyer 50 à 100 emails par
lot, tu fais par petit lot, d'accord.
Par petit lot. Et tu as des outils qui existent, tu as des outils de growth hacking qui font ça. Encore une fois, tu as cette partie. En fait, d'abord, c'est que tu commences par ta communauté qui te connaît, toi.
Le premier cercle. Ceux qui nous connaissent, pour histoire d'amener finalement une sorte de preuve sociale, c'est ça?
Ouais, voilà, parce que ils te connaissent un peu, c'est pas un inconnu, parce que quand tu vas faire un cold mailing envoyé à l'ensemble de la communauté de fans d'Apple, enfin voilà, on reviendra un peu pour ces sujets, ça ne marchera pas parce qu'ils te connaîtront pas. Mais qui c'est ce type-là?
Qui est ce mec sur Reddit qui nous fait la promo de son truc?
Voilà. D'accord. Et donc, en fait, là, tu vas travailler sur ton noyau de fans. Et ça, c'est important. Et pense vraiment omnicanal. Tu vois, t'as un groupe WhatsApp dans lequel je fais partie, où il y a vraiment une partie des fans, mais pourquoi, en fait, tu vas pas dire, mais si vous m'aidez à communiquer, je vous donne un petit bonus. Pareil, à l'intérieur de ce qu'on appelle la gamification et les viral loops, les gens qui utilisent ton application, est-ce qu'ils peuvent pas gagner un petit bonus faisant un like, en faisant un commentaire? Toujours, c'est ces gens-là qui font des likes, qui font des commentaires, des avis sur l'application, qui vont l'installer, ils vont avoir un truc. Bah, si tu as un bonus, tu as un petit message qui dit, bah, j'espère que vous appelez, je pense que vous avez déjà ça, le petit message qui dit, si vous aimez l'application, likez-la, commentez-la. Bah, là, tu peux dire, bah, si tu veux, si tu commentes en plus, je t'offre un cadeau en plus, qui peut être, je sais pas, peut-être une nouvelle feature, ce que vous avez pas encore sorti, ou un truc que les gens veulent. Tu débloques ce truc-là en cliquant et en faisant un avis. Et automatiquement, après, tu n'as même pas besoin de vérifier. Fais sur la confiance.
Oui, bien sûr. On y va à la confiance.
Et en fait, là, je vais le faire. Donc,
super
là,
idée.
Ta base de fans. On appelle ça la théorie des liens faibles. La théorie des liens faibles, c'est que c'est les personnes qui sont les plus éloignées de toi qui vont avoir le plus d'impact. C'est-à-dire que c'est pas ta famille, c'est pas tes amis, mais c'est des gens qui sont un peu éloignés comme moi, qui vont dire, eh ben ouais, j'ai une communauté, je connais quelqu'un, eh ben je vais le faire. Là, pareil, donc t'as tous les gens qui sont que tu connais dans ton réseau. Tu les as utilisés pour ton bouquin quand il est sorti. Mm-hmm. Et je pense que moi c'est ce que je fais quand je sors en fait un livre. J'ai mon plan d'action avec tout ce que je dois faire. J'ai mon plan d'action détaillé. Et donc, je choisis dans ces influenceurs-là les gens avec qui je leur propose une interview, je leur propose un truc. Tiens, j'aimerais bien, toi, tu peux faire la reverse interview comme on fait là. C'est-à-dire que j'interview la personne au lieu que ce soit lui qui m'interview. Et après, je peux proposer une monnaie d'échange dans ce style-là. Après, il y a toutes les techniques classiques qui est je change ma bannière. Je mets, par exemple, tu pourrais très bien utiliser sur LinkedIn, création de poste, enfin, de créer une entreprise qui est la boîte de ton app. Mmh. Je sais plus quel est le nom. Redis-moi le nom parce que je crois que j'ai eu du mal à.
Tu parles de l'app, c'est ça?
Ouais.
Note-taker AI-100% local. Ça marche, ça marche en anglais, en français. Voilà.
Alors, oui, c'est vrai que c'est pas mal. Mais donc, tu peux très bien utiliser sur LinkedIn, enfin, créer sur LinkedIn une page entreprise où tu dis, voilà, je viens de note-taker AI 100% local. Et ça va faire une notif à tout le monde. Et les gens, tu l'as dit tout à l'heure, ils vont t'envoyer un petit message. Ah, bravo pour ton nouveau poste. Bravo pour ton truc. Tu dis, ah oui, non, mais c'est mon truc sur iPhone, etc., etc. Alors, regarde, essaye-le. Fais-moi plaisir. J'aimerais bien que tu aies un avis là-dessus. N'hésite pas à le tester. Tu verras, ça permet de faire ça, 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 ça. Voilà. Donc, encore une fois, on est sur, tu dois être sur tes leviers internes au départ. C'est ça qui va te faire, c'est ce qu'on appelle les 1000 true fans. Alors, les 1000 true fans, c'est en fait d'avoir ces 1000 premiers fans avec qui tu vas co-construire. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est de créer ton produit, ce qu'on appelle le build-in public. Le build-in public, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme, moi, j'adore ça. Quand tu vas sur Instagram ou TikTok, les mecs qui construisent une maison, toi, ils détruisent tout le truc, et puis après, tu vois, ça continue. Le build-in public, c'est la même chose. Sauf que là, tu vas expliquer comment tu es en train de lancer en 30 jours ton application, tu montes les résultats, tu montes ce que tu as fait, tu montes des actions marketing. Et j'aime bien citer à chaque fois Pierre Guibaud qui a lancé la communauté Marketing Flow, qui s'est arrêté depuis, qui a été repris par Ulule. Mais montrer comme ça te permet de créer du lien avec ta communauté. Donc expliquer comment. Et là, en fait, tu vas pouvoir vraiment fédérer des personnes et tu vas pouvoir après travailler là-dessus, sur des contenus provocants. Là, en fait, on le disait tout à l'heure, c'est. Ton positionnement, c'est cette fameuse privacy. Et donc, en fait, là, ce que tu peux toucher, toi, c'est tous les gens qui parlent, en fait, de sécurité des données.
Ouais.
Les DSI, les gens qui sont techies, geeks et compagnie. Là, tu peux expliquer, voilà, moi, je vais essayer de fédérer cette communauté en ligne. Soit tu choisis les développeurs, mais je pense que ce n'est pas ta cible, les développeurs. C'est plutôt les gens qui sont dans la souveraineté et les gens qui sont plutôt sur la confidentialité, cybersécurité et compagnie. Donc là, en fait, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas expliquer pourquoi il faut faire attention aux failles de sécurité. Tu peux faire une veille sectorielle. Tu peux les ajouter. Tu peux créer cette fameuse communauté sur Substack, sur les gens qui sont intéressés par le sujet, et expliquer pourquoi c'est important. Donc, travailler sur cette 1000 true fans là-dessus. Une fois que tu as sorti, tu es arrivé sur cette. Là, tu as sorti un petit peu de ta sphère. Tu vois, on était sur on parlait des liens faibles. On élargit un petit peu. Maintenant, en fait, on va élargir un petit peu plus. On va élargir aux gens qui ne te connaissent pas et qui pourtant ont un intérêt là-dessus. Alors, ces gens qui ne te connaissent pas et qui ont un intérêt, comment tu peux les inciter à t'aider. Alors, je te dirais, si l'application était payante, de faire tout simplement un système d'affiliation. Très simple, regarde, teste l'application, tu verras, elle est vachement sympa. Et si tu génères 10 usages, eh ben, je t'offre un bonus, un cadeau, je t'offre mon bouquin ou peu importe. Enfin, voilà, le truc plus simple. Ensuite, tu vas encore augmenter le cercle. Le cercle, après, c'est plutôt sur les techniques assez classiques où tu peux demander à des communautés, faire des cold mailing, etc., sur des personnes ciblées. Voilà. Donc, j'ai essayé de te donner en quelques minutes.
Écoute, merci parce que l'exercice n'était pas facile, on n'avait pas prévu. Donc, tu m'as gentiment proposé ça et je me suis dit, on va faire tout ça en live. Merci beaucoup. On sent que tu as vraiment du métier, de l'expérience, de la réflexion. Un grand, grand merci. Tu nous redonnes le titre de ton ouvrage. S'il est en pré-vente, dis-le-moi, je mettrai les liens dans les notes d'épisode.
C'est l'édition papier chez Duno. Donc, tu sais que les
délais. Aïe, 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 aïe.
Donc, le bouquin, on est en train de le finir là. Et
donc, c'est pour cet été. Donc, tu le lances à la rentrée, quoi, c'est ça?
Exactement.
Bon, on va te réinviter. On te réinvitera, tu nous en parleras un petit peu.
Et c'est là que tu me donneras les nouveaux chiffres du lancement de l'application.
Purée, ouais, savoir... là tu m'as mis la pression. Tu m'as mis la pression. Grand merci à toi, Fred, pour tout ça, cette prise de recul. Je pense que vous avez tous trouvé plein de matières à réflexion et soyez vraiment picorés. Hein. Réécoutez cet épisode, prenez des notes si vous n'avez pas pris de notes, parce que je pense que ça va vraiment vous aider à poser quelques fondamentaux. Grand merci à toi, Fred, pour tous ces conseils. Je vous redonne l'adresse du blog de Fred, hein, c'est conseils marketing avec un s.fr.com, je ne sais plus, Fred.
.com.
Il y a la newsletter sur Substack, n'hésitez pas.
J'ai grillé l'adresse .fr à force de faire un peu des techniques de mailing limite. Et d'accord. Je suis repassé il y a 2 ans sur le .com parce que le .fr, je l'avais essoré.
Génial. Grand merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. On se retrouve très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao, ciao. Connected, mate.